Où vivrons-nous demain ? Une émission de Jean-Pierre Estrampe. Architecture, urbanisme, cadre de vie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne vais pas faire une rubrique nécrologique, mais je vais parler du décès d'un architecte dont vous avez certainement entendu parler, et la couverture dans la presse et sur les réseaux a été très importante. Il s'agit de Franck Guéry, qui est l'architecte, comme vous devez le savoir, du musée Guggenheim de Bilbao, entre autres, et de la fondation Cartier à Paris. Alors, c'est tout à fait singulier que un architecte soit aussi célébré au moment de son décès, un architecte contemporain, c'est dont on parle autant. Il y a eu des précédents, par exemple Paul Andreux, qui était un architecte très important au niveau mondial, puisqu'il avait construit 20 aéroports et l'Opéra de Pékin, et enfin des bâtiments importants. Sa mort, il y a quelques années, c'était en 2024, c'était quelques années avant. Mais sa mort était passée, on peut dire, assez inaperçue. Et il en est de même d'autres architectes, dont certains que je connaissais, comme Antonio Fernández Alba en Espagne, ou Harry Wolff récemment, architecte américain qui est mort à Porto. Donc, il ne s'agit pas de faire un inventaire des chroniques nécrologiques, mais celle-là a un côté tout à fait surprenant, justement, par son intensité et surtout par les commentaires. Alors, il est vrai qu'on ne fait pas de commentaires critiques au moment d'un décès, mais là, c'était le contraire. C'était extrêmement élogieux et on a entendu des mots génial, le génie, le titan de l'architecture, des choses qui sont, à mon sens, excessives, parce que les génies, il faut attendre une certaine période, il faut attendre, je pense, le filtre de l'histoire pour déclarer le statut de génie à un artiste. Alors, il en est différent de scientifique qui fait une grande découverte, bon, puis c'est remplacé par d'autres découvertes, mais là, pour qualifier de titan de l'architecture et de génie, on a vu à peu près dans tous les journaux ce terme qui a été employé, et sur les réseaux, comme je vous disais. Alors, l'histoire est assez singulière parce que cet architecte a eu une notoriété tardive, donc, et ça, c'est jamais rappelé, et il a eu, on peut dire, deux carrières. Alors, il se trouve que, lors de mes pérégrinations dans ma carrière d'architecte et aussi, de curieux, de journaliste, et j'avais fait un reportage sur Los Angeles, et évidemment, j'y étais allé, et à ce moment-là, le Guggenheim n'était pas construit, mais la figure de Guéry apparaissait comme quelqu'un d'assez singulier, et comme il avait son agence à Los Angeles, à Santa Monica. Santa Monica, tout le monde sait que c'est cette partie de Los Angeles qui est, on peut dire, photogénique, que l'on retrouve dans beaucoup de films, qui est en bord du Pacifique, avec une très longue plage. Et donc, il habitait également dans ce quartier, et on peut dire que les revues d'architecture et de décoration avaient publié les modifications qu'il avait faites à sa maison. Alors, c'était quelque chose d'assez singulier. On ne peut pas dire que ça n'avait rien de comparable avec ses énormes projets. C'était des modifications dans un quartier bourgeois. Alors, Los Angeles, c'est une ville que l'on connaît à travers le cinéma, puisqu'on peut dire que c'est la cité de la télévision et du cinéma américain. Et il y a donc un réseau de voies très important, à la fois des autoroutes et à la fois des boulevards. Et là, il s'agissait d'un boulevard assez important, bordé d'immenses palmiers et de maisons à peu près identiques, de ces maisons que l'on voit dans les films américains, qui sont assez répétitives, assez agréables à vivre, mais pas d'une architecture particulièrement originale. Et là, il avait modifié une de ces maisons, on peut dire banales entre guillemets, et les modifications étaient assez singulières. Il avait accroché des grillages, il avait mis des choses de travers à une architecture assez banale. Et il se trouve que ces modifications, qui étaient, on peut dire, de surface, avait d'une part reçu les protestations du quartier, qui avait trouvé que c'était pas du tout l'endroit où il fallait faire ça, puisque c'était un quartier bourgeois. Et surtout, ce qui est important, ça avait attiré les photographes, et cette maison a été publiée dans les revues, et ça faisait partie d'une sorte de notoriété soudaine à un âge déjà avancé, puis une carrière où il y avait des bâtiments. Alors, j'ai visité certains de ces bâtiments. Il y avait notamment dans le même secteur un très grand supermarché, on peut dire, dans l'esprit du supermarché, qui n'avait rien à voir avec les architectures singulières qu'il avait fait, qui étaient de belles factures, très, on peut dire, nous on dirait méditerranéen, mais enfin, disons, près de la mer, ça faisait un supermarché blanc qui était d'une belle facture. Et également, une école maternelle, alors là, qui était assez amusante. Il s'agit évidemment d'une région qui ne connaît pas des grands hivers, donc les matériaux sont légers, on peut faire les choses avec du bois, donc c'était animeux, coloré, mais on peut dire sans grande singularité. Alors, par la suite, je pense que ça doit être lié justement au fait que il ait fait quelque chose d'étrange par rapport à sa production d'architecte, et il a vu qu'il y avait certainement une fenêtre de tir. Donc évidemment, ça, tout ça n'est jamais expliqué. Et il a eu un premier projet à Paris qui était pas très réussi, qui était le Centre américain, et qui est devenu aujourd'hui le bâtiment de la Cinémathèque, où il avait des formes arrondies, mais le bâtiment était en béton, et c'était pas très heureux. Donc c'était on peut dire un demi-succès, mais il commençait à parler de lui. Et puis est arrivé le projet du Guggenheim. Alors le Guggenheim, c'est une succursale, comme le Louvre fait aujourd'hui des succursales à l'étranger, et là c'était une idée assez étonnante et qui a très bien marché, de faire la succursale du Guggenheim. Et on connaît le Guggenheim de New York, qui est un bâtiment construit par l'architecte Wright, et qui est à côté du Metropolitan Museum, et donc qui est un bâtiment, on peut dire, iconique de l'architecture. Donc il a un projet à Bilbao, et bien sûr, ce projet, je pense que tout le monde, si vous n'y êtes pas allé, vous avez vu les photos, c'est une sorte de grand squale argenté, et ça a eu, on peut dire, une grande notoriété. Non pas tellement par les œuvres exposées, ce qui est le cas aujourd'hui des musées, parce qu'il semblerait que le musée soit la finalité en soi. J'en ai déjà parlé dans des émissions précédentes, mais là, on a effectivement un musée qui est lui-même l'objet du musée. C'est-à-dire que la visite du Guggenheim est quelque chose qui se passe d'une manière ludique, comme on va à Disneyland, ou dans les foires avant, où on avait le train fantôme et les labyrinthes, etc. Et là, c'est à peu près la même sensation. Alors, c'est vrai que le bâtiment est tout à fait étonnant, mais quand je vous parle de cette visite des parcs d'attractions, je crois que c'est le seul musée où j'ai vu des enfants qui couraient en criant, et apparemment ça gênait personne. D'ordinaire, dans les musées, il y a on peut dire une sorte de recueillement et contemplatif des œuvres, et là on est dans autre chose qui est ludique. Alors je ne porte pas de jugement, simplement il faut classifier les choses et voir que à partir de là il y a une transition, et cette transition va aussi impulser un grand nombre de musées. On en a déjà parlé, les musées de d'autres architectes, on peut dire star architectes, puisque c'est le terme convenu, et où on a le musée qui est lui-même l'objet visitable. Les photos du musée sont les photos de l'extérieur du musée, et que ce soit le musée d'Abu Dhabi, de Nouvelle, enfin, il y a toute une série de musées dans le monde aujourd'hui qui sont en fait des sculptures à elles-mêmes, et le musée fait concurrence avec les œuvres, si ce n'est plus que concurrence, qu'en fait il les fait oublier. Alors, évidemment, je ne porte pas de jugement de valeur, simplement je signale que l'âge auquel Franck Gehry atteint la notoriété, c'est l'inauguration, est en 1997, du Guggenheim, donc c'est le moment où on commence à en parler, et Franck Gehry a 68 ans. Alors, c'est vrai qu'il vient de mourir, il continue à travailler à 96 ans, ce qui est un bel âge pour travailler, sans prendre de retraite. Et simplement, on peut dire que c'est une reconnaissance assez tardive. Mais comme je vous disais, on n'en a pas parlé, il y a deux carrières. Alors ensuite, il y a toute une série de bâtiments qui vont être faits sur le même principe qui a eu tellement de succès, c'est-à-dire des sortes de voiles arrondies, quand je dis qui ressemblent à des architectures de science-fiction, avec un bâtiment qui a l'air d'être en mouvement, et où on peut dire toute la logique de la fonctionnalité, de l'organisation, tout cela n'est passé à la trappe, on peut dire en quelque sorte, pour n'avoir uniquement que l'image qui devient une icône, un symbole, et qui de ce fait assure la notoriété de l'architecte et la notoriété du bâtiment, et aussi les flux de visiteurs qui vont voir non plus ce qu'il y a dedans, mais le bâtiment lui-même, qui est un bâtiment spectacle. Donc, c'est de cela dont je voulais parler, et il s'agit quelque part d'une véritable rupture. Donc, on va marquer une pause musicale, et on va reprendre le propos sur, justement, cette architecture spectacle. Je vais reprendre sur une thématique que j'ai déjà abordée, sur la relation de l'artiste et son époque. Pour résumer ma position, je dirais que c'est les époques qui font les artistes et ce ne sont pas les artistes qui font les époques. Je m'explique. Si Picasso n'avait pas peint Les Demoiselles d'Avignon, quelqu'un d'autre aurait fait quelque chose de semblable et l'histoire aurait été globalement la même. Donc, ce que je pense, c'est que les artistes sont les produits d'une époque, en quelque sorte. Ce sont ils ne sont pas les précurseurs, ils sont ceux qui sentent l'époque. Et ce n'est pas du tout, ce que je dis, n'est pas du tout pour enlever le mérite à ceux qui, justement, prennent les habits d'une époque et la comprennent, mais il ne faut pas inverser les choses. Donc, dans le cas de Franck Gehry, ce qui est important, ce n'est pas tellement sa vie, son œuvre et les détails précis, mais pourquoi cette architecture, et là on peut le voir d'autant plus que c'est une rupture dans sa propre vie à lui, comment cette architecture arrive à avoir un succès mondial et, comme je vous disais à l'instant, sa nécrologie est totalement dithyrambique. On n'est que dans l'émerveillement de quelqu'un qui a changé le cours de l'architecture et on le remercie en disant « vous avez rompu avec l'angle droit », etc. Bon, j'en passe de choses qui me paraissent assez infantiles, mais c'est intéressant d'interroger le pourquoi notre époque s'émerveille devant des bâtiments qui sont, on peut dire, je sais pas, fracassés, qui ont l'air, qui partent dans tous les sens, qui sont l'inverse de tout ce que l'architecture a pu être en Occident, puis d'ailleurs ailleurs, c'est-à-dire une géométrie, des emboîtements géométriques, un ordre qui est en rupture, justement, avec la nature et le désordre du monde. C'est-à-dire que on peut dire la planimétrie, le rectangle ou le carré n'existent pas dans la nature. C'est le propre de l'homme de le dessiner au milieu des courbes de terrain, au milieu de la flore et de la faune qui prolifèrent. Et tout cela, c'est en mouvement. Et l'architecture, elle est immobile et géométrique sur le territoire, même si les géométries ne sont pas forcément les mêmes, elles peuvent être complexes, mais quelque part, et on est toujours sur du cercle et du carré. Là, effectivement, on est en rupture. Alors, il faut dire que l'époque le permet, parce que nous avons des matériaux qui permettent de faire ces formes libres, on peut dire, et on a des croquis qui sont des gribouillages, et on voit le gribouillage qui prend forme avec une maquette, et la maquette se transforme en bâtiment. Alors là, il y a des ordinateurs en marche, et on a aussi des nouveaux matériaux qui font que la carrosserie que l'on peut trouver dans l'architecture des voitures, des avions, tout ce qui bouge sur la Terre, on la retrouve en transposé dans du fixe. Et quand je vous parlais de voiles, bien sûr, ce sont des voiles rigidifiées qui ne sont pas les voiles à mouvement du Vendée Globe. Donc, c'est déjà quelque chose de singulier. On peut dire que ce qui doit plaire à notre époque, et c'est là où je veux en venir, c'est que l'architecture ressemble à la nature. Du moins, c'est une sorte de nature congelée. C'est une sorte de photo immobilisée de ce qui est en mouvement, comme je vous disais, les automobiles, les avions et autres véhicules. Donc, on a cette image à la fois d'un monde où revient la nature avec l'écologie, la place des plantes dans l'univers urbain, et en même temps le bâtiment qui doit, on peut dire, singer, en être une expression matérialisée de la souplesse de ses formes. Alors ça, c'est une première explication. Alors il y en a eu une autre qui est un peu moins poétique, qui serait que l'architecture était le symbole de l'ordre, comme les villes étaient ordonnancées avec des trames régulières. Quand Haussmann reprend le Paris qui, au fil des temps, s'est bousculé avec des ruelles, et il en refait une ville ordonnée, la ville des Lumières. Donc, ça reprend une organisation avec des hiérarchies, des boulevards, des rues, des lieux qui sont à la fois rectilignes et à la fois hiérarchisés. Et un bâtiment, le mot ordre n'est pas un vilain mot en architecture, puisque c'est la base, les ordres classiques que tout le monde a appris à l'école, le dorique, le ionique et le cotique, on appelle ça les ordres. Et l'ordonnancement est le fondement de, on peut dire, de l'enseignement de l'architecture, où on prend les programmes avec leur complexité et on les hiérarchise et on les ordonne. Donc le mot ordre est remplacé dans ce cas-là par une volonté justement de désordre, où on se complaît à casser ces schémas de hiérarchie qui étaient antérieurs. Alors, bien sûr, quand il s'agit de musée, le problème n'est pas très important, puisque un musée peut se visiter d'une manière totalement aléatoire. Alors, quand on fait un hôpital, je pense que si on a cette architecture-là, et si on recherche un malade, un médecin, ou à la salle d'opération, pour les gens qui y travaillent, ça devient un peu compliqué d'être dans un labyrinthe. Et il en est de même pour la plupart des bâtiments où on travaille, les bâtiments d'éducation, etc., ne sont pas des labyrinthes. Donc, on aurait une architecture qui serait une architecture d'un côté qui serait ludique et qui serait celle des concours d'architecture, des grands architectes, et puis on aurait une architecture qui serait banalisée et qui serait l'architecture de tous les jours. Bon, vous devez sentir que tout cela ne me semble pas tellement une grande avancée historique. Mais, comme je vous disais, c'est le reflet de notre époque. Et je pense que ce reflet de notre époque n'est pas très, très positif. Alors, je vous ai dit en tout début que, évidemment, qu'on avait introduit la nature. Mais, justement, je pense que le propre de l'homme, c'est de distinguer et d'avoir sa place, alors en respectant la nature, mais aussi en marquant son empreinte sur les toits, sur le territoire, et une empreinte qui est faite de logique. Et quand on fait aujourd'hui des bâtiments, la grande bibliothèque par exemple a dit oui, c'est quatre livres posés parce qu'une bibliothèque c'est quatre livres. Là, alors c'était Dominique Perrault l'architecte qui a gagné, on peut dire, sur cette idée. Et Jean Nouvel qui fait un musée dans les Émirats en forme de rose des sables, là on est aussi, on est plus près du parc d'attraction que de l'architecture symbolique. C'est, on peut dire, c'est l'architecture infantile, c'est l'architecture parlante, c'est l'architecture des contes d'enfants dans lequel le cordonnier habite une chaussure et on a des images, mais on reste dans le monde infantile. Donc, ce que je vous disais, d'une part, c'est l'absence d'ordre et de lecture, et le deuxième, on peut dire, volet du désordre, c'est d'être dans l'infantile. Et en plus, un infantile régressif, parce que les enfants n'aiment pas spécialement où ça reste dans les livres, mais les bâtiments pour les enfants, n'ont pas besoin d'être infantiles, et les enfants, on peut les traiter dans ce rapport-là comme les adultes, et dans leur perception de l'espace et des symboles, ils n'ont pas besoin de cette infantilisation qui est malheureusement celle de notre société. Alors bon, tout ça n'est pas très joyeux, et effectivement, vous vous rendez compte que je ne participe pas à l'extrême éloge qui a été fait sur Franck Guéry. Mais je voudrais terminer, bon, puisqu'il s'agissait d'une nécrologie, sur une note personnelle qui est triste, c'est la mort, en même temps que celle de Franck Guéry, d'un architecte montpelliérain qui était mon ami, qui s'appelait Alain Jansac, et qui a été l'architecte de la ville de Montpellier. Et vous trouverez sur les réseaux un éloge tout à fait touchant et émouvant du maire de Montpellier, Alain Jansac, avec qui il avait eu des rapports de confiance, et apparemment c'était quelqu'un qui l'admirait, et je dois remercier le maire de Montpellier qui a fait ce vibrant hommage à Alain Jansac, qui était mon ami et qui a été aussi mon associé et auquel je dois beaucoup. Voilà, on terminera sur cette note triste et d'émotion. Thank you. c'était « Où vivrons-nous demain ?» Je remercie Sacha qui est toujours pertinent derrière ses consoles. Et je vous dis à la semaine prochaine.